France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis étude pour piano, il y a de fortes chances que vous entendiez Chopin, Liszt, Scriabine ou Debussy. À ces noms, il faudrait ajouter celui de Ligeti qui, à la fin de sa vie, a composé 3 livres d'études pour piano qui signalent un changement d'orientation esthétique et ouvrent de nouvelles perspectives. Ces 18 pièces pour piano font l'objet d'une passionnante réflexion de Jean-François Boukobza, mon invité, et en sa compagnie, je vous propose de découvrir ou mieux connaître cette musique fascinante et si originale de Gheorghi Ligeti. Gheorghi Ligeti, étude pour piano de Jean-François Boukobza aux éditions Contrechamps en collection poche. Toroscan et ses 25 doigts au moins interprétaient la première des 18 études de Ligeti, première étude donc du premier livre, malicieusement intitulé « Désordre » et malicieusement dédié à Pierre Boulez. Bonjour Jean-François Boukobza.
Bonjour.
Vous enseignez l'analyse et l'esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et également à Aubervilliers-la-Courneuve et vous signez donc ce livre Gheorghi Ligeti, études pour piano dans une nouvelle collection, une collection de poche, des éditions Contrechamps qui, on le sait, sont spécialisées dans le répertoire contemporain et suivront dans cette même collection des ouvrages consacrés à des œuvres de Nono, Messiaen, Griset ou Boulez. Peut-être pour commencer, faut-il resituer ce cycle, ces 3 livres d'études pour piano, 18 pièces en tout, de Ligeti dans son parcours esthétique. Je l'ai dit en introduction, c'est à la fin de sa vie que Ligeti s'est penché sur et retourné en fait au piano, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Alors, ça correspond à une phase sans doute d'interrogation, de doute créateur après la composition du Grand Macabre, son grand opéra, donc en 1970,
c'est ça, oui.
Et s'en est suivi une période un peu de vide compositionnel, ou tout du moins de creux, qui a duré relativement longtemps, presque 5 ans, avec très peu d'œuvres écrites, alors que c'était un compositeur qui jusque-là avait une production assez régulière.
Ouais. On sait pourquoi, à quoi est due cette crise?
Alors, je pense à plusieurs facteurs cumulés, il n'y a jamais de facteur unique dans la vie d'une manière générale. Probablement parce que c'est un opéra qui met en jeu des affects très forts sur l'érotisme, sur la sexualité, sur la mort, sur un devenir post-mortem. Mm-hmm. Probablement aussi une crise compositionnelle qui vient d'une montée aussi des courants postmodernistes, et Ligeti a eu des discussions assez fortes avec ses élèves à cette époque, qui eux étaient plutôt tenants d'une postmodernité, lui était un compositeur catalogué à l'avant-garde, et il y avait aussi un débat sur l'essoufflement éventuel des avant-gardes et comment se positionner. Et puis aussi parce que Ligeti est quelqu'un qui n'aime pas s'enfermer dans des systèmes, et qui a toujours été obsédé par l'idée de se mettre en cause lui-même, et il y avait un style Ligeti auquel son nom était lié depuis les années 60, avec des manières un peu types d'écrire la musique, et il voulait peut-être aussi se départir de ce style. Mmh. Et alors il y a une première œuvre qui était le trio avec piano en 1981 qui a surpris tout le monde parce que on trouvait des formes closes, ce qui était à l'encontre du style Ligeti jusque-là, des formes ABA pures, on pourrait dire, une notion de thème, une notion de développement presque beethovenien, et qui a surpris beaucoup de monde.
Et c'est ce qui est étonnant d'ailleurs, cette période des années 80 chez Ligeti, vous avez cité le trio, il y a également une sonate pour alto, il y a un concerto pour violon, pour piano, donc vraiment le retour à des formes archi-classiques.
Voilà, le retour à des formes classées. Alors il y avait quand même le Kammerkonzert, il y avait aussi des concertos pour violoncelle auparavant, il y a eu cet opéra, mais il y a chez Ligeti de toute façon l'idée de travailler avec l'histoire en quelque sorte, et donc de revenir vers des genres, comme vous dites, chargé d'histoire, on pourrait ajouter Nonsense Madrigals, etc. Et donc il y a cette idée toujours de repartir de l'historique des genres et de regarder un petit peu comment un genre se situe dans ses marges, dans ses limites, et éventuellement pouvoir transgresser ses limites.
Travailler avec l'histoire ou contre l'histoire ?
Je dirais dans un premier temps avec, et dans un second temps contre. C'est-à-dire, à mon sens, la chose qui me paraît importante pour saisir la musique et la personne de Ligeti, c'est sa fascination pour les systèmes, et notamment comment perturber les systèmes. Donc c'est quelque chose qui se décline à plusieurs niveaux dans son parcours, c'est-à-dire à la fois dans sa vie. C'est quelqu'un qui était confronté à des systèmes politiques extrêmement autoritaires, le nazisme, les totalitaires et le stalinisme. C'est aussi dans son œuvre une obsession pour les mécanismes et comment détraquer ces mécanismes dans son œuvre, et on entend du reste
là, oui,
dans des ordres. Voilà. Donc on instaure un mécanisme, on le perturbe de manière continue jusqu'à l'implosion du mécanisme. Thank you.
Le début du concerto pour violon de Gueorgui Ligeti, Patricia Kopaczynskaya, l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, dirigé par Peter Hautevoche. Jean-François Boukobsa, ce concerto pour violon est contemporain des études. Enfin, on l'a dit, c'est 16 ans, je crois.
Oui, tout à fait, parce que les études sont travaillées, je dirais, du début des années 80. Le premier volume est sorti en 85, et puis elles ont été travaillées jusqu'au début des années 2000.
Ouais.
Il devait y avoir un peu plus d'études, mais après, la maladie a entravé la carrière compositrice.
Ligeti est mort en 2006.
Voilà, c'est tout ça, à voilà. fait. Mmh. Et le concerto pour violon accompagne finalement sa dernière manière avec une genèse assez longue, assez compliquée, mais disons qu'il y a des soubassements esthétiques que Ligeti met en place au début des années 80 et qui vont innerver toutes ses œuvres, le concerto pour piano, la sonate pour alto à laquelle vous faisiez allusion, et puis bien sûr le concerto pour violon.
Et là encore, on a l'impression d'une sorte de mécanique qui commence déjà aussi à se détraquer là. Oui.
Alors exactement, il y a la mise en place de systèmes, il y a aussi la recherche chez Ligeti d'une ce qu'il appelait une harmonie sale, c'est-à-dire une harmonie assez hybride qui emprunte à plusieurs composantes. Et on trouve aussi quand même des manières de faire assez caractéristique chez lui, d'une musique qui fonctionne par strates, cumulée, par couches. Quelque chose aussi qui peut se référer à Bartok dans l'idée de procéder d'un diatonisme qui serait altéré par chromatisme et qui serait gauchi par chromatisme.
Alors justement, vous avez venez de citer le nom de Bartok et vous mentionnez dans votre livre sur ses études pour piano de Ligeti que dans ces années 80, il semble se nourrir de, comme toujours j'ai envie de dire, mais de d'influences extrêmement variées, aussi bien la musique de Centrafrique, la musique des 14e et du 15e siècle, Bartok aussi, le folklore, tout ça mélangé se retrouve dans ses études pour piano de Ligeti.
Alors exactement, c'est une sorte de, en continuant Bartok, on pourrait dire de folklore synthétique, de folklore imaginaire. Il y avait cette idée de comment évoluer, donc au sortir du grand macabre, et comment renouveler le style. Et Ligeti, une approche qui est vraiment une approche du 21e siècle déjà, je dirais, qui essaie de trouver du lien, du sens entre des objets esthétiques ici très éloignés les uns des autres, justement avec la musique subsaharienne, avec la musique du Moyen-Âge, avec Bartok, mais aussi avec des théories scientifiques, les théories du chaos, une approche de Karl Popper de l'épistémologie scientifique, essayer de justement de définir des éléments qui peuvent permettre d'avoir un système musical. Le mot système lui ferait peur, je pense, mais une pensée musicale, tout du moins, qui soit une pensée complexe et une pensée qui veuille affronter la complexité du monde, justement les différentes composants du monde. On sait très bien qu'on peut plus avoir la culture du 18e siècle, la culture de l'honnête homme du 18e siècle est quelque chose de dépassé aujourd'hui, les savoirs sont trop riches, trop complexes, mais essayer justement de trouver des éléments d'affinité, de lien, d'unité entre différents composants.
Jean-François Boukobsa, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand on se penche sur ses études pour piano. C'est d'une part le retour donc au piano, c'est-à-dire un instrument sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, alors qu'on sait que dans les années 60 et 70, Ligeti prenait un malin plaisir à désaccorder, à gauchir le son des instruments. Et puis, il y a également le retour au rythme, à la pulsation. Alors que sa musique, ses grands titres des années 60, 70, c'est plutôt une sorte de musique à l'état presque gazeux, j'ai envie de dire, de nuages de sons que l'on pouvait voir presque plus qu'entendre.
Alors, c'est peut-être ce qui a marqué les premiers auditeurs des études, c'est-à-dire une façon de se démarquer des manières de considérer le piano dans la musique plutôt d'avant-garde, à partir de 1945-50, c'est-à-dire soit concevoir le piano comme instrument percussif, soit concevoir le piano comme instrument à résonance, comme caisse de résonance finalement, soit éventuellement concevoir le piano comme une sorte de polyphonie débridée. Je pense aux partitions extrêmement complexes de Vian Ferneyo ou d'autres artistes. Donc il y avait ce premier aspect qui peut être intéressant. Et puis sur l'utilisation des rythmes, alors c'est quelque chose qui est déjà relativement ancien chez Ligeti, qui était les mouvements perpétuels qu'on peut trouver dans Continuum pour clavecin, et qu'il va développer par apport des musiques subsahariennes, notamment sur ces musiques qui ont là aussi une sorte d'ostinato permanent, de continuum permanent sur lequel viennent se greffer différentes couches.
À nouveau, oui, c'est ça, une superposition
irrégulière. C'était un premier apport qui était très fort chez Ligeti, et il en a eu l'explication par un immense ethnomusicologue qui est Sima Harom. et par Gerhard Kubik aussi, qui était un ethnomusicologue allemand, et aussi par les pièces pour piano mécanique de Nan Caro, qui l'ont fasciné, parce que là, c'est des superpositions rythmiques extrêmement complexes, des groupes de 37 notes contre 29, par exemple, avec des canons rythmiques particuliers, et aussi la prise en compte de la musique du Moyen-Âge, dans les messes de l'Ars Nova, par exemple, et puis dans les messes de la Renaissance, avec une superposition de couches rythmiques indépendantes les unes des autres, et assez délicates. Et donc voilà, c'est une synthèse de couches d'éléments et avec ses propres grilles rythmiques, et puis toujours cette idée de théorie du chaos, c'est-à-dire d'installer des mécanismes qui vont être perturbés jusqu'à la dislocation terminale.
Pierre-Laurent Aymard interprétait la 11e étude de Gheorghi Ligeti en suspens, extrait donc du deuxième livre d'études de Jean-François Boucobson. On parlait jusqu'à présent de pulsation de rythme. Là, évidemment, on est dans un tout autre univers. Qu'est-ce qu'a voulu explorer Ligeti dans cette étude en particulier?
Alors, il y a un autre aspect des études qui est d'abord le plaisir tactile, c'est-à-dire Ligeti lui-même a pratiqué le piano étant enfant. Ça n'a jamais été un très grand pianiste, il le déplorait lui-même, il n'a pas eu cette faculté de faire des études. Il est revenu à l'instrument à la fin des années 1970, notamment avec ses étudiants. Et il organisait chez lui des séances de musique de chambre avec ses propres étudiants, où il se mettait au clavier, il jouait des partitions de Schubert, de Brahms, de Beethoven, de la musique de chambre, de Mozart. Et donc, il y a cette idée du plaisir des doigts. Il y a une influence qui était très très forte sur Ligeti, qui est la musique pour piano de Debussy. Il adorait véritablement la musique pour piano de Ligeti. Il a été marqué par cet aspect. Et puis il y a l'influence du jazz, et notamment de pianistes comme Bill Evans, par exemple, qui avec des atmosphères assez raréfiées, assez éthérées, très poétiques, et qu'on retrouve dans cette étude, par exemple. Mmh.
Mais il s'avouait pianiste incompétent, en fait. Il a commencé trop tard, à 14 ans,
il a commencé
ans,
trop tard. Il avait d'abord un père qui était un peu opposé à ce qu'il fasse de la musique. Et puis le frère
scientifique,
de...
c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Et le frère le jeune frère de Ligeti avait de telles prédispositions pour le violon que, du coup, Ligeti a pu obtenir l'acquisition d'un piano. Et ça s'est fait de cette manière-là. Mais il y a un amour pour l'instrument. Alors, après les études, ça demande des pianistes... plus que confirmé, c'est des pianistes qui ont des moyens assez exceptionnels, comme on vient d'entendre avec Pierre-Laurent Aymard. Donc Ligeti ne pouvait pas jouer lui-même ses études, mais il avait un imaginaire qui était débordant, c'est-à-dire sur chaque étude, lorsqu'il a rencontré Pierre-Laurent Aymard pour que tous les deux échangent sur les études, Pierre-Laurent Aymard m'a confié que Ligeti avait énormément d'images. et pour lui indiquer justement un univers. Donc il avait beaucoup de métaphores, beaucoup d'imaginaires et beaucoup d'images. Mmh. Et moi, j'attends une édition avec les remarques de Pierre-Laurent Aymard. Ce serait assez fantastique parce que Ligeti lui a confié beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, Jean-François Boucobset, vous parlez justement d'images et vous rappelez dans votre livre que même dans les indications dans les partitions de Ligeti sont souvent chargées de des notions de lointain, de distance, d'espace qui figurent régulièrement dans sa musique.
Alors ça fait partie très justement, comme vous le remarquez, d'une de ses démarches, je dirais de tout temps depuis qu'il est passé en Occident et même avant on pourrait dire, mais qui s'est encore plus affinée dans les années 80, qui est de travailler justement sur les marges d'un art, sur les limites d'un art. Un petit peu à l'exemple de la peinture de Cézanne, qui cherche une géométrisation, mais aussi, je pense, on pourrait rapprocher, c'est pas Ligeti qui le fait, c'est plutôt moi qui le fais, sur des peintres qui ont travaillé sur une notion de temporalité en peinture, comme Kupka. Mm-hmm. Y a l'idée, chez Ligeti, de faire de la musique un art de l'espace. Et donc, traditionnellement, de cet art du temps qu'est la musique, de travailler la musique dans une autre dimension, qui serait une dimension spatiale. Alors évidemment, avec une notion de lointain, qui est un terme assez complexe, parce que ça peut être lointain dans le temps, mais c'est aussi lointain dans l'espace. C'est une manière de travailler sur des registres qui sont très, très différenciés, de mettre à nu aussi des registres, et de montrer un même objet. Je pense par exemple au fanfare qu'il y a dans Fanfare, l'étude du même nom, et de montrer cet objet dans des contextes, dans des situations différentes, pour comme si on avait une idée spatiale de cet objet. C'est assez étonnant. Oui.
Et puis aussi un malin plaisir à bousculer la notion de la géométrie même de l'espace. Vous évoquez aussi les gravures de Piranèse ou de Escher, on ne sait jamais dans quel sens vont les marches de ces escaliers totalement incroyables. Ouais.
Exactement, c'est un autre aspect qui est de travailler aussi sur l'illusion, sur l'illusion spatiale, bien sûr, avec tous les exemples que vous mentionnez, et en travaillant aussi avec les illusions acoustiques. La gamme de Shepard, par exemple, qui était un ingénieur qui a mis au point une illusion acoustique, et cette impression d'avoir une gamme qui monte à l'infini, véritablement. Enfin, c'est un jeu en accentuant certains partiels plus que d'autres, mais ça donne véritablement ces idées de montée à l'infini ou de descente à l'infini, comme on peut trouver dans certaines gravures de Escher, je pense à l'escalier ou à la fontaine d'eau.
À bout de souffle, la 17e des 18 études pour piano de Ligeti sous les doigts de Tauros Kahn, Jean-François Boukobsa. Est-ce que le titre de chacune de ces études de Ligeti donne des clés pour les comprendre et surtout pour les interpréter?
Alors je pense, mais il faut quand même avoir à l'esprit que les titres ont été donnés après coup par Ligeti et que lui-même a beaucoup hésité sur les titres à donner. Donc pour chaque pièce, il a prévu beaucoup de titres. Et généralement, il faisait une sorte de présélection en discutant avec des amis, puis ensuite il définissait par lui-même le titre qu'il a donné. En ce qui regarde à bout de souffle, il n'a pas donné tellement d'indications. Alors évidemment, il y a le film de Godard et irrémédiablement le titre renvoie au film.
Et quel rapport?
Ben, on n'en sait rien.
véritablement.
À chacun de le, un peu comme les titres de Bussiiste, c'est à chacun ensuite de reconstruire un imaginaire. Il y a aussi sans doute l'idée d'un essoufflement dans cette pièce. Et on retrouve une poétique que, dans À bout de souffle, qu'on a dans toutes les études. C'est-à-dire l'idée de prendre un mécanisme au moment de sa chute, d'avoir un maillage qui est très serré sur un continuum de croches régulières, sur une écriture canonique ici, sur l'absence de césure, sur une matière qui est très réduite, qui sera la question du troisième livre et éventuellement d'un style final chez lui. Ces accents irréguliers qui dessinent des périodes de nature totalement asymétriques, et puis ces accords terminaux assez énigmatiques, une musique qui semble s'évaporer, ce qui est assez intéressant, et qui peut aussi aller dans le sens du titre, À bout de souffle, et l'extinction.
Bien sûr. Jean-François Boukobsa, vous avez dit que ces études ont un peu déstabilisé le public au moment de leur publication et de leur découverte en concert. Aujourd'hui, 20 ans après l'achèvement quasiment du troisième livre, qu'en est-il? J'ai quand même l'impression, et vous le rappelez en introduction, que d'autres musiques pour piano n'ont pas connu la même fortune que ces études de Ligeti, qui sont beaucoup enregistrées, souvent données en concert, figurent également en nombreux concours de piano, vous le rappelez.
Oui, malgré leur difficulté à interpréter, à jouer, c'est quand même des études qui sont beaucoup travaillées par les étudiants en conservatoire. Aujourd'hui, c'est des études qui ont trouvé assez rapidement et presque immédiatement leur public, parce que je pense qu'elles faisaient le lien entre une écriture pour piano qu'on avait sans doute perdue dans l'avant-garde, dans l'écriture des années 50-60, que j'aime beaucoup pour ma part, mais c'était une autre façon de considérer le piano. Il y a une façon de renouer chez Ligeti avec un héritage, tout en ne recopiant pas, tout en n'étant pas dans l'imitation servile, en donnant d'autres bases de développement. Probablement aussi, dans ces études, il y a l'idée de travailler sur un format court, avec une expressivité forte, avec des formes qui sont simples à appréhender pour l'auditeur. Avoir aussi une direction qui est clairement perceptible dans chacune des études, c'est avoir vraiment le sentiment d'un temps, un début, un milieu, une fin. Le maintien aussi d'une pensée motivique ou d'un sens mélodique. Et parfois aussi l'emploi de topics, si je peux dire, l'emploi d'objets qui sont identifiés par l'auditeur, le lamento par exemple, ou d'autres aspects. Et puis ce geste pianistique qui est vraiment en lien avec les grands créateurs pour le clavier.
Très bien, merci beaucoup Jean-François Boukobsa. Je rappelle le titre de votre livre, Gheorghi Ligeti, études pour piano, qui vient de paraître aux éditions Contrechamp. Il y avait aujourd'hui Thomas Jost à la réalisation, à la technique Stéphane Touvenin, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons de Sigismondo d'India avec Jorge Morales. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.